Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Augustin de Colnay. Vous venez de publier Compétition mondiale et intelligence économique chez VA Éditions. C'est un livre qui va intéresser pas simplement les étudiants, ceux qui s'intéressent à ce domaine, mais j'allais dire qu'il peut intéresser tous ceux qui s'intéressent à la géostratégie, les chefs d'entreprise, les patrons de PME, les patrons d'ETI, parce qu'ils vont découvrir des choses qui sont totalement inattendues. Je pense être assez bien informé sur tout ce qui se passe en matière d'intelligence économique. C'est un sujet que l'on traite assez régulièrement. Mais là, d'abord, pour vous présenter, vous avez un master en stratégie d'intelligence économique de l'école de guerre économique et vous êtes spécialisé dans l'analyse et l'anticipation des risques en intelligence économique. Quand je dis que ça va intéresser des gens qui ne pensent pas peut-être être concernés par ce sujet, c'est que traditionnellement, et moi-même, quand on parle d'intelligence économique, on parle toujours d'espionnage, c'est-à-dire quand vous êtes dans une entreprise sensible, qui a des brevets dans le médical, dans la défense, dans les télécoms, des choses sensibles. On ne parle pas dans le TGV, on évite de consulter le rapport confidentiel que l'on a reçu quand on est dans un avion. Voilà, toutes ces choses, c'est de la pédagogie, ça. Voilà, c'est du bon sens. Mais moi, par exemple, j'ai découvert aussi que ce que vous classifiez dans l'intelligence économique, dans ce qui nous menace finalement à nous, entreprises, ce n'est pas simplement le piratage. Je vais commencer, par exemple, c'est la dépendance. C'est-à-dire que progressivement, on est dépendant d'un fournisseur, d'une technologie. Et ben c'est totalement dans l'actualité en ce moment quand on nous parle par exemple de Startup Nation avec cette dépendance de beaucoup d'entreprises françaises à l'égard des GAFA. Voilà, j'avais envie de commencer notre entretien là-dessus. Qu'en pensez-vous ?
Alors, merci beaucoup de me donner la parole pour la sortie de mon livre. Je vais revenir sur la dépendance. Néanmoins, je souhaiterais peut-être revenir sur la genèse des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Il faut peut-être d'abord rappeler le contexte dans lequel on vit. Je le cite en introduction, je cite le grand expert Alain Juillet, qui est un ancien haut responsable à DGSE et qui a une parfaite connaissance des questions d'intelligence économique. Et lui, ce qu'il dit, et c'est un constat qui est pour moi très important, si vous voulez, depuis les années 2000, on a des concurrents français et surtout internationaux qui commencent à maîtriser dans un grand nombre de secteurs d'activité, les mêmes savoir-faire que vous, les mêmes produits que vous, et ça commence à devenir problématique. C'est-à-dire que si on prend le domaine des voitures, si on prend le domaine des avions de chasse, vous voyez, si je m'arrête sur cette partie sur l'armement, le français Dassault Aviation s'est fabriqué un Rafale, les Américains s'est fabriqué leur avion de chasse, le F-35, les Russes le Sukhoi, et puis un consortium de pays européens qui fabrique l'Euro Typhoon. Donc on fait face à des avions, pour rester dans ce domaine, hein, des avions qui sont pour la plupart très bons. Et dans ce cadre-là, la question est de savoir comment vous allez vous démarquer de vos concurrents. Donc si vous voulez, on est en train de rentrer dans une ère où ce n'est plus parce que vous avez le meilleur produit au meilleur prix que vous allez remporter maintenant facilement des marchés. Et donc, ce que décrit Alain Juillet, c'est qu'on commence à rentrer dans un monde qui devient hyper concurrentiel. On assiste à des rapports de force qui deviennent violents et une compétition mondiale qui devient terrible. Et je pense que c'est une des citations qui est pour moi la plus importante, c'est que maintenant, personne ne fait de cadeau à l'autre. Je pense, si vous voulez, à l'affaire des sous-marins en Australie, c'en est un exemple. Voilà un peu, et donc si vous voulez, par rapport à ces différents termes qui ont été évoqués, quand on dit personne ne fait de cadeau à l'autre, c'est quoi? Si vous voulez, moi, pour les cadres en entreprise, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de définir un panorama des risques et des menaces et d'y mettre des recommandations. Parce qu'on peut parler vous me parlez de la dépendance, mais moi, j'aborde 7 grandes familles de risques et dedans, j'y ai classé 39 risques. Voilà. Et en tout cas, ce que j'ai souhaité faire pour les cadres, c'est de dresser, si vous voulez, un véritable manuel d'intelligence économique et qui va permettre aux gens d'avoir des exemples très concrets. Vous en avez plus de 80 qui sont sourcés. Vous avez plus de 800 sources. Voilà un peu, si vous voulez, pour planter en tout cas les raisons qui m'ont poussé à écrire cet ouvrage. Alors maintenant, si je viens sur cette première grande famille de risques, la dépendance, pour
J'ai
moi, c'est
commencé
celle qui...
par là parce que c'est celle qui est la moins évidente. Si vous interrogez même des chefs d'entreprise sur l'intelligence économique, ils parleront peut-être pas spontanément de la dépendance.
Alors, pour moi, c'est un des sujets d'actualité majeurs en ce moment. Vous avez par exemple des usines Renault qui sont à l'arrêt ou qui ont été à l'arrêt parce qu'on a une pénurie de composants. Je pense notamment aux puces électroniques, du fait, j'en parle longuement dans mon livre, qu'on a délégué, donc l'industrie, c'est, pour la vie, ces dernières années, on a considéré que c'était sale, qu'il fallait passer une industrie de service, et donc déléguer à un certain nombre de pays, mais surtout à la Chine, notre production industrielle. Et maintenant, on l'a vu avec le Covid-19, on est devenu complètement dépendant d'eux, ne serait-ce que par la fabrication de masques. Alors moi, j'ai pris d'autres exemples. Si je reviens dans le domaine militaire, je pense au porte-avions Charles de Gaulle. Donc, si je le cite, hein, lorsque le président Chirac a refusé d'aller faire la guerre en Irak aux côtés des Américains pour la deuxième guerre du Golfe, donc le président Bush fils, a décrété un embargo sur toutes les pièces détachées à destination de l'armée française. Donc, on a un événement majeur qui a une répercussion sur la marine nationale, ce sont les pièces détachées de la catapulte du porte-avions Charles de Gaulle. Donc, si vous n'avez plus de catapulte qui vous permet de lancer, de projeter vos avions dans le ciel, votre porte-avions devient inopérant. Voilà, c'est un exemple de dépendance qui est très fort, mais après, on pourrait prendre le cas de, si vous voulez, du rachat d'Alstom Energy par General Electric, où on a assisté à une pression considérable sur EDF afin qu'EDF se soumette aux exigences, de General Electric.
C'était donc ça consistait en septembre 2015, hein, vous précisez.
C'est ça. Donc ça consistait en quoi ? C'est tout simplement General Electric a demandé à EDF, d'une part, de réduire leur responsabilité juridique en cas de défaillance de centrales nucléaires, et d'autre part, d'augmenter le prix de leurs pièces détachées. Donc EDF a dit non. Et qu'est-ce qu'a fait General Electric? Eh bien, ils ont organisé des dizaines de grèves de maintenance. Voilà, ce qui a forcé EDF à mettre en place, et vous avez une lettre qui a été envoyée par le patron d'EDF à l'époque à son homologue de General Electric, en disant qu'ils ont été obligés de se réorganiser.
Avec des mesures d'urgence qui dépassent le plan de secours habituel. Une attitude inacceptable.
Voilà, mais si vous voulez, donc la dépendance, moi je n'ai pas que la dépendance, je n'ai pas que abordé que ce type de dépendance-là. Vous avez donc aussi cette dépendance par rapport à une zone géographique. Donc j'aborde par exemple, pour revenir à la Chine, le problème des métaux rares, donc qui sont présents partout dans nos composants. Ça va de l'éolienne à votre smartphone, à l'armement, aux voitures, etc., etc. Et après, vous avez également la dépendance, si vous voulez, par rapport au financement. Si je cite le cas de Pernod Ricard, vous avez eu un fonds activiste qui s'appelle Elliott, qui, en ne prenant qu'une faible partie du capital de Pernod Ricard, a voulu faire pression sur le management de la famille Ricard. Voilà ce que je relate.
Oui. Et puis moi, dans ma question, quand j'ai commencé, je parlais aussi à de nombreuses entreprises, start-up qui se créent, hein, c'est très à la mode en France, en ce moment, et quand on voit la manière dont elles vivent, etc., il y a une énorme dépendance vis-à-vis des GAFA, en réalité.
Tout à fait. Et je vous remarquerai dans l'actualité, donc on a un projet actuellement de cloud européen, projet Gaia-X, et tout est fait pour torpiller ce projet de souveraineté européenne. Si vous voulez, ce que j'ai constaté, hein, c'est aussi notre forme de dépendance, mais nous avons... une mainmise des GAFA sur les serveurs. Donc, on a un grand nombre d'entreprises françaises qui stockent leurs données sur des serveurs américains, ce qui pose problème. Donc, je parle de Amazon Cloud, de Microsoft ou de Google Cloud. Et ce qui pose problème, c'est que ces serveurs américains sont soumis à une loi qui s'appelle le Cloud Act. Et ce qui fait que lorsque vous avez une injonction de la justice américaine, du DOJ, département de la justice américaine, l'entreprise américaine en question est obligée de soumettre les données de son client à la justice américaine et parfois sans avoir à prévenir son client. Vous avez eu récemment dans l'actualité un responsable de la sécurité des données des clients de Microsoft qui évoque le fait que dans un grand nombre de cas, et il s'en plaint, la justice américaine demande à avoir accès aux données de leurs clients et parfois sans avoir à prévenir les clients de Microsoft.
Alors, ça, c'est le premier point. Le livre est passionnant parce qu'en réalité, c'est aussi presque un James Bond, hein, parce qu'il y a des faux recrutements, des faux appels d'offres.
Tout à fait. Si vous voulez, l'objectif, c'est vraiment de dresser un grand panorama sur les appels d'offres. On peut commencer, je dirais, de manière douce. Donc, ça peut commencer avec les théâtres, par exemple. Vous avez des théâtres, alors ça commence à dater un peu. Vous avez des théâtres qui font auditer des troupes d'artistes, voilà, qui lancent un appel d'offres pour une représentation. Ils vont faire interviewer plusieurs troupes d'artistes, prendre des notes sur les idées originales que présentent les metteurs en scène et ne pas donner suite à ces différentes troupes d'artistes. Ce qui se passe, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que les responsables de ces troupes d'artistes ont investi du temps et de l'argent. Il faut bien payer ces comédiens. Et on s'aperçoit ensuite, ça a été rapporté par un syndicat, que ces théâtres-là, après, construisent leur propre programme artistique et ne donnent pas suite aux différentes troupes d'artistes qu'ils ont interviewées. Donc ça, disons, on commence de manière douce. Après, on peut monter d'un cran, si vous voulez. Là, je reviens sur la Chine. Donc la Chine, vers les années vers 2008-2010, a lancé un appel d'offres pour des trains à grande vitesse. Donc vous avez plusieurs grands acteurs européens qui ont répondu. Vous aviez Alstom Train, donc non pas, qui est différent du groupe Alstom Energy. Vous aviez l'allemand Siemens, le canadien Bombardier et puis un japonais. Donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez eu un premier mémoire qui a été demandé. Donc chacun y a mis des informations techniques. Les Chinois ont dit ce serait bien que vous mettiez finalement on va lancer un deuxième tour de table et n'hésitez pas à mettre des informations un peu plus techniques. À la suite de ça, donc chacun s'attendait à gagner cet appel d'offres qui était assez considérable. Les Chinois n'ont pas donné suite. Ils ont gardé les deux mémoires avec les informations techniques et ont dit « On vous remercie, c'est nous, on va construire notre train par nous-mêmes, on va se débrouiller. »
Vous nous avez donné toutes les infos.
Voilà, mais merci beaucoup en tout cas pour toutes les informations. Maintenant, ce sont eux qui exportent des trains à travers le monde. Vous aurez plus de détails en lisant le livre. Mais voilà, le but, c'est de vous mettre en garde. Lorsque vous répondez à un appel d'offres, moi je conseille en tout cas, alors, il ne faut pas devenir parano, mais je pense qu'il est préférable d'analyser à l'avance s'il n'y a pas des risques de transfert forcé de technologie, comme ça peut être le cas avec cet appel d'offres qui date de 2008 à 2010.
Voilà. Et finalement, on s'aperçoit que ça peut être, y compris quand on parle d'intelligence économique, évidemment, c'est pas simplement face aux méchants qui sont à l'autre bout du monde. L'exemple des théâtres que vous prenez, hein, voilà, ça peut être aussi au sein d'un même territoire national. C'est simplement une. Est-ce que c'est pas humain, ça, finalement ? Est-ce que c'est pas humain ? Je vais vous prendre aussi un autre exemple. Vous ouvrez une pizzeria sur une place ou dans une rue. Il y a une autre pizzeria qui a une excellente réputation. Vous allez appeler le chef de l'autre pizzeria, lui faire croire que vous allez le recruter pour lui donner un meilleur salaire. Et pendant l'entretien, vous allez dire où est-ce que tu t'approvisionnes, chez qui tu vas acheter, comment tu fais ta pizza et puis vous donnez pas suite. C'est un peu ça, quoi. Est-ce que ce n'est pas humain et ça existe depuis la nuit des temps ?
Alors certes, ça existe depuis la nuit des temps. Si vous voulez, le problème actuel, si je cite l'expert en intelligence économique et Eric DDC, dans son livre « L'intelligence économique pour les nuls », le problème, c'est que ça crée un chômage de masse. Si vous voulez, quand vous avez un certain nombre d'entreprises, alors là, vous me parlez d'un cas plutôt local. Moi, si je prends après à l'international, c'est qu'à force de perdre des appels d'offres, à force de se faire piller des technologies, ça amène un grand chômage de masse. Et l'urgence, si vous voulez, c'est vraiment de fournir maintenant un manuel qui est concret, un véritable outil opérationnel. Donc, pour ça, vous reprenez le sommaire une fois que vous avez lu le livre et ça vous permet de faire un audit de votre entreprise et de voir où est-ce que vous êtes vulnérable. Est-ce qu'on tente d'attaquer votre réputation pour faire perdre des projets, pour nuire à votre image? Est-ce que juridiquement, vous pourriez avoir des problèmes avec des lois extraterritoriales comme le font les États-Unis? Est-ce que vous avez des connexions humaines qui sont préjudiciables? Voilà, est-ce que vous êtes victime d'espionnage économique? Donc, si vous voulez, je reste vraiment dans cette logique de vue aérienne. L'idée principale, ça reste de donner l'objectif, c'est de communiquer un outil qui est où j'ai vulgarisé l'intelligence économique. Ce n'est ni plus ni moins qu'une façon de faire face à la compétition internationale. Moi, ça, c'était le terme, si vous voulez, de mon éditeur. Moi, je parlerais plutôt de guerre économique, qui est pour moi un terme,
un terme encore
plus fort.
Oui, voilà. Mais alors, qui est tellement
ça
vrai.
Ça fait pas de mort, si vous voulez, en apparence. Par contre, ça vous fait des chômeurs en masse. Et je pense que indirectement, la mort, le terme de guerre, si vous voulez, on va le retrouver dans le chômage de masse par rapport à nos entreprises. Si vous voyez le nombre de coups bas qui se passent actuellement, l'affaire des sous-marins en Australie, c'en était qu'un seul exemple, mais vous avez d'autres pays qui font tout pour que des groupes français perdent des appels d'offres, de gros appels d'offres. Vous voyez, vous avez le patron de l'ANSSI qui a... Arnaud Popard, qui a partagé sur LinkedIn dernièrement un article de Wikileaks qui dit quoi? Qui dit qu'à partir de 200 millions de dollars de contrats, les entreprises françaises vont être systématiquement espionnées, et cela afin que les entreprises américaines puissent obtenir des informations face à leurs concurrents. Et que, bien entendu, du coup, ces entreprises américaines gagnent. Il est là le problème. Et je pense qu'il y a une naïveté...
Puis 200 millions de dollars de contrats, c'est pas beaucoup, ça concerne pas mal de grands groupes. Hein.
C'est le minimum. Voilà, après, je ne suis pas expert sur cette thématique-là, mais tout ce que je vous cite, ce sont des. J'ai fait, moi, si vous voulez, mes recherches en source ouverte, comme on l'appelle. Donc, elles proviennent de différents canaux, soit des livres, comme je pourrais citer le livre de Frédéric Perucci, Le piège américain. Donc, il a parlé de son histoire personnelle, il a également fait ma préface, mais il a été. Si vous voulez, véritablement un otage économique aux États-Unis, il a été arrêté, et ce pour permettre à General Electric de racheter Alstom Energy. Voilà, ce n'est qu'un exemple.
Augustin de Colnay, qui nous parle de son livre Compétition mondiale et intelligence économique, qui est publié chez VA Éditions. Il y a un autre point. Là, ça concerne aussi de très très nombreux entreprises, c'est la réputation, la irréputation, et on s'aperçoit que il y a des sortes d'organisations, des ONG qui, au nom de bons sentiments, ça peut être de protéger les pandas ou les ours ou ceci ou l'écologie ou les droits de l'homme, on voit leurs missiles de mauvaise réputation. C'est parfois très ciblé. Et après, quand on se penche sur le financement de ces ONG, on comprend qu'il y a clairement une volonté de certains États, de certaines organisations, d'affaiblir d'autres États. Et le grand public est parfois naïf.
Tout à fait. Si vous voulez, en termes d'ONG, moi, j'ai donné deux grands exemples. Il y en a un dont, si vous voulez, les gens n'ont pas forcément confiance, conscience. Ça concerne L214. Qu'est-ce qui se passe? Donc, si je vulgarise l'exemple que je vous ai donné, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, vous avez des milliardaires américains qui, d'un côté, dans leur main droite, financent par le biais de fondations des associations de lutte contre la consommation de viande animale comme L214. Et c'est pas la seule. Donc, si vous voulez, je cite les comptes publics de l'association L214, ils ont reçu plus d'un million d'euros, si ma mémoire est bonne, en 2017. Donc L214, quel est son but? C'est de dire ne consommez pas de la viande animale, avec un jargon qui est très spécifique, parce que c'est un crime, ils emploient le terme de génocide, etc. etc. Ils font des vidéos sensationnelles en pénétrant dans des abattoirs, souvent de manière illégale, et après ça leur permet de donner des images au public en dénonçant la cruauté de certains abattoirs ou de certains éleveurs. Ils s'attaquent également aux boucheries, comme on a pu le voir il y a surtout l'année dernière. En parallèle, donc ces mêmes milliardaires américains, dans leur main gauche, ils financent des labos qui fabriquent de la viande artificielle, donc qui va être une viande de substitution pour demain. Ça, c'est un marché qui vaut des milliards et des milliards d'euros. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de façon discrète de financer des actions comme L214. Alors je dis pas que tous les activistes de L214 en sont conscients. Néanmoins, ils n'ont pas dit non à la subvention qui leur a été versée. Donc si vous décrédibilisez, si vous dites que consommer de la viande animale, c'est mal, c'est horrible, c'est un génocide, etc., je reprends leur jargon, ils espèrent une baisse de la consommation de viande en France. Et d'un autre côté, donc vous avez des startups actuellement aux États-Unis qui sont en train de développer de la viande artificielle en laboratoire. Alors c'est un procédé que j'explique dans mon livre, hein, qui est un peu complexe. Vous prélevez du liquide amniotique sur certains animaux et vous faites grossir après. Alors c'est scientifiquement c'est compliqué à expliquer. Mais l'idée, si vous voulez, à terme, là, on a des laboratoires qui commencent à savoir fabriquer de la viande artificielle en quantité et qui sont en train de réduire les coûts de production de plus en plus vite. Donc je le cite, hein, c'est un article du Monde qui disait qu'à Singapour, ils viennent d'autoriser, enfin ça date un peu maintenant parce que c'est dans mon livre, ils ont autorisé la consommation de viande artificielle. Donc à terme, ça constitue, si vous voulez, une véritable menace pour les éleveurs français, puisque vous pourriez voir débarquer sur le territoire national donc des startups américaines qui vont en magasin ou au McDo ou dans d'autres fast-food venir vous proposer une viande de substitution, et ce au détriment de nos éleveurs.
Et tout ça a été réfléchi, évidemment. Tout ça a été réfléchi et à ce qu'on appelle les idiots utiles qui relaient ces combats. Vous avez pris cet exemple, mais on pourrait en prendre sur plein d'autres sujets, sans forcément prendre le temps de réfléchir et se dire que ça se fait au détriment des entreprises françaises.
Alors, il y a quand même une prise de conscience. Hein. Il y a véritablement une prise de conscience de la part de certains experts dans le domaine de l'intelligence économique qui tentent d'alerter les pouvoirs publics pour protéger nos éleveurs, par exemple. Bon, là, c'était la thématique de la viande. Si vous voulez, moi, j'ai aussi des problèmes avec d'autres ONG qui, on pourrait croire qu'elles sont neutres. Et encore une fois, je n'ai pas de problème avec les ONG tant qu'elles...
Aucune ONG n'est neutre.
Voilà. Si vous voulez, après, il faut développer...
Par principe, puisqu'il y a toujours un financeur. Hein.
Oui, mais alors après, on s'aperçoit que certaines ne sont vraiment pas du tout neutres. Ce qui est intéressant pour chacune des ONG, c'est de voir d'où proviennent leurs financements. Si vous voulez, Greenpeace possède une filiale aux États-Unis, pardon, en Allemagne, qui s'appelle Planète Énergie. Cette société allemande possède des investissements dans l'éolien. Et là, on rentre en contradiction puisque Greenpeace mène une lutte acharnée contre le nucléaire. Donc, l'idée, ce n'est pas de vous dire je suis pour ou contre le nucléaire. Je vous porte un constat. Je vous dis que Greenpeace fait tout pour s'attaquer à l'image du nucléaire, à attaquer la réputation du nucléaire français notamment. Et en parallèle, moi j'ai voilà au cours de mes recherches, j'ai découvert que du coup que cette filiale Planète Énergie a des investissements dans l'éolien. Donc on est face à un concurrent en termes de production d'énergie. Et c'est là où je souhaite alerter les lecteurs et donc là vos auditeurs sur le fait que voilà, lorsqu'une entreprise lorsque la réputation d'une entreprise est attaquée par une ONG. Encore une fois, je n'ai pas de problème avec les ONG en général. Je dis juste, attention, regardez d'où proviennent les financements et essayez de voir. Alors après, vous pouvez faire appel à un cabinet d'intelligence économique. J'en donne un certain nombre dans le livre. Je cite un certain nombre de cabinets d'intelligence économique auxquels vous pouvez faire appel. Mais moi, je vous recommande en tout cas de regarder l'histoire un peu de telle ou telle ONG pour voir si est-ce que d'une part, elle ne s'attaque, principalement à des entreprises françaises, par exemple, et pas à d'autres pays. Voilà, c'est déjà une première piste. Et je crois que le cœur d'une ONG, c'est vraiment son financement, de voir d'où vient son financement. Et dans ce cas-là, après, une fois que vous avez posé le diagnostic avec un cabinet d'intelligence économique, il faut faire appel à un cabinet spécialisé en communication pour reprendre le dessus. Et je pense que c'est vital.
Oui, mais tous les exemples que vous prenez, évidemment, c'est pour des grandes entreprises, hein. C'est pas pour des PME. Hein. Déjà, il faut avoir le stade d'une ETI minimum.
Alors, si vous voulez, le but de ce livre, c'est de le rendre accessible au.
C'est ça, c'est pour ça que je voulais vous avoir. Hein, c'est pour ça.
Au grand public, moi, si vous voulez, les grandes entreprises en général.
Vous auriez pu l'appeler l'intelligence économique pour les nuls aussi.
Oui, mais alors le titre a déjà été pris. Si vous voulez, moi, une de mes cibles prioritaires, c'est surtout les PME, parce que les grands groupes, si je prends des grands groupes comme Total ou dans l'armement, comme Naval Group, Thales, etc., ces grands groupes-là disposent tous de cellules d'intelligence économique, donc qui ont des personnes qui sont formées à identifier les menaces d'espionnage économique ou de manipulation, etc., et à les contrer, à faire des propositions à leurs décideurs pour ne pas subir des menaces de la part de concurrents, mais ça peut être des menaces de la part d'État, d'ONG, etc., etc. Maintenant, pour les PME, qui n'ont pas les moyens de financer des personnes qui sont formées à l'intelligence économique, qui ont fait des formations, par exemple, de l'École européenne d'intelligence économique, de l'école que j'ai faite, donc de l'EGE pour École de guerre économique. Voilà, vous avez différentes formations. Ça peut être également des gens qui viennent des services de renseignement, qui ont pratiqué durant des années, qui ont fait de la lutte, qui ont dédié leur carrière à la lutte contre l'espionnage économique. Voilà, ça, ce sont des profils qui sont recrutés typiquement par des grandes entreprises, mais les PME n'ont pas de budget pour se payer à plein temps ce genre de personnes. Et donc, l'intérêt de ce livre que je leur propose, c'est, je reviens à ce terme, hein, c'est vraiment de leur fournir un outil opérationnel et qui va dans leur sens, pour pas cher, hein, vous l'avez pour 19 €, vous avez un outil opérationnel.
J'aimerais terminer, alors je rappelle bien sûr le titre du livre, Compétition mondiale et intelligence économique, grille d'analyse des risques de Augustin de Colnay chez VA. Je voulais terminer cet entretien, Augustin de Colnay, pour aborder un chapitre, par exemple, le lobbying d'un concurrent pour obtenir des normes le favorisant. On a souvent entendu ça, on s'en rend aussi pas souvent compte. Tout ça dans un catalogue de bonnes intentions. Ça existe dans les travaux publics vis-à-vis d'une collectivité locale. Par exemple, vous êtes, le patron d'une entreprise de BTP qui arrive à convaincre les élus dans leur appel d'offres de mettre telle disposition parce que c'est plus écologique ou parce que c'est pour le bien-être des salariés. Et en réalité, quand ils soufflent cela, il sait très bien que c'est le seul à être équipé, à avoir telle machine capable de répondre à cet appel d'offres. Les gens ne s'en rendent pas compte, disent « Ah ben, il a une très bonne idée », et puis c'est le gars qui emporte l'appel d'offres et toutes les entreprises du coin sont décapitées. C'est un peu cela.
Alors, si on parle PME, hein, vous avez un certain nombre de PME françaises qui sont, si je prends le monde du logiciel, hein, qui ont créé des logiciels libres ou qui peuvent les personnaliser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que au sein de l'éducation nationale, on a des élèves et des profs qui utilisent des logiciels de Microsoft. On a eu, si vous voulez, dans les années passées, un contrat qui a été passé par le biais de l'UGAP pour que les élèves et les professeurs puissent utiliser les solutions de Microsoft. Donc, indirectement, inconsciemment, ça va devenir une norme, ce qui fait que cela se fait au détriment de toutes ces PME qui sont spécialisées dans la production de logiciels libres, qui savent faire les mêmes choses que Microsoft de façon différente. Et quand vous avez des milliers d'étudiants qui, durant toute leur scolarité, vont utiliser les solutions de Microsoft, vous avez de très grandes chances qu'une fois que ces personnes-là vont travailler en entreprise ou dans des administrations, elles vont continuer les mêmes produits. Et c'est là où ça me pose problème, c'est qu'on a des acteurs en France, on a un certain nombre de PME qui savent proposer des solutions concurrentes à Microsoft et qu'on pourrait utiliser. Si je prends le cas de la gendarmerie, ils sont passés sous une licence en Linux, ils ont passé plus de 80 000 postes sous Linux et ils ont arrêté d'utiliser les services de Microsoft. Donc c'est possible, c'est quelque chose qui est possible. mais vous avez du coup cet acteur américain qui fait tout son possible pour faire un lobbying intensif, pour mener un lobbying intensif, et qui ne laisse pas de place à des PME françaises spécialisées dans les éditions de logiciels libres. Voilà, c'est un des faits que j'ai relevé. Donc on est vraiment face à une influence normative qui se fait au sein des écoles françaises et qui, pour moi, n'est pas normale et qui entrave la concurrence.
Eh oui, surtout quand on sait que la plupart des gens qui utilisent, par exemple, la simple suite Office de Microsoft ne l'utilisent qu'à, je crois, 4 ou 5% de toutes ces possibilités. Et c'est souvent pour un traitement de texte, envoyer une lettre, faire du gras, de l'italique. Et il y a des solutions libres qui existent tout aussi bien. Voilà, simplement, on est pris dans cette habitude. Merci, Augustin de Colnay, de nous avoir parlé de votre livre « Compétition mondiale et intelligence économique ». C'est publié chez VA Éditions. Vous avez un master en stratégie d'intelligence économique de l'École de guerre économique. Augustin de Colnay, merci et à bientôt.
Merci pour votre invitation.